Radio Forum. Les paroles des quartiers populaires. Une production Making Waves.
En Seine-Saint-Denis, l'accompagnement à l'emploi.
Malheureusement, après la COVID-19, on nous a licenciés.
J'ai été régularisée, je me suis inscrite au Pôle emploi et tout de suite, j'ai eu du travail, mais pas via le Pôle emploi. Et voilà, je parlerai aussi un peu pour les autres, surtout nos personnes âgées qui ne savent pas utiliser le numérique en fait.
J'ai 65 ans, je pense que j'ai donné assez. Moi, c'est 14 ans à travailler.
C'est très, très difficile. Il faut qu'on les aide. Il n'y a pas le temps. Et voilà. Et puis, ils sont dans tous les sens. Et il y a certains, vous voyez, bien, ils ont la volonté d'avancer. Mais il y a aussi ce blocage.
Depuis janvier, il y a eu un licenciement économique. Donc, je suis actuellement à la recherche d'emploi. Ah ben, j'ai découvert le monde de France Travail. D'ailleurs, hier, j'ai appris qu'ils ont été hackés. Donc, je ne suis pas rassurée. Pour l'instant, ça va. Je suis au tout début de mon parcours de recherche d'emploi et quelque part, après 22 ans de métier, je fais aussi une pause qui est nécessaire. Et voilà, faut savoir prendre le temps à un moment.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous radiophonique sur Radio Forum. Aujourd'hui, on va se plonger ensemble au cœur des enjeux de l'emploi dans les quartiers populaires, dans les quartiers prioritaires de la ville, depuis les locaux de la mission locale de Villemomble. Dans cette émission, on va s'attacher ensemble à parler de jeunesse en quête d'emploi, on va parler aussi de marché du travail, on va échanger avec l'association pour le développement économique et social de Villemomble qui s'appelle l'ADEV, qui s'engage activement à accompagner les allocataires du RSA. Et on a la chance aussi d'avoir autour de la table quelqu'un qui est énormément demandé. Il s'appelle Moussa Sidibé. Moussa, il est référent parcours au sein du PRIJ. Le PRIJ, c'est quoi? C'est le programme régional d'insertion des jeunes. Et Moussa, il intervient sur trois villes, hein, Villemomble, Gagny et Pavillon-sous-Bois. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'abord à Rama Camara de nous accueillir ici au sein de la mission locale. Bonjour Rama.
Bonjour Mohamed.
Est-ce que, très, très succinctement, tu peux te présenter et quelle fonction tu occupes au sein de la mission locale?
Bien sûr. Bonjour à tous. Rama Camara, je suis responsable de la mission locale de Villemomble et coordinatrice du CEJ, donc le contrat d'engagement jeune sur l'intercommunalité Gagny, Villemomble et Pavillon-sous-Bois. Donc j'ai deux équipes et effectivement, mon travail, c'est d'assurer l'accompagnement des jeunes au sein de la structure et m'assurer que mes équipes travaillent dans de bonnes conditions. Donc le CEJ étant sur l'intercommunalité, j'organise l'orientation des jeunes des trois missions locales vers le CEJ. Donc le CEJ se localise essentiellement sur l'antenne de Villemomble où nous accueillons les jeunes sur ces grandes salles d'atelier, donc tous les matins. Le CEJ, c'est le contrat d'engagement jeune. C'est un dispositif d'État. Donc le dispositif est très simple, 15 à 20 heures de démarches composées de différents types d'activités dont le but est de décrocher un emploi durable. Donc le jeune peut percevoir durant son accompagnement une allocation allant jusqu'à 528 €. Et cet accompagnement est signé pour 6 mois et peut durer jusqu'à donc 18 mois.
Alors qu'est-ce qu'ils font du coup ces jeunes dans le cadre de ce dispositif? Comment ils occupent leur temps dans leur recherche d'emploi? Comment ça se passe? Il y a une journée type ou pas?
Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est 15 heures d'atelier en mission locale, donc quasiment tous les matins du lundi au vendredi, où on va proposer donc tout type d'atelier. On va avoir de la recherche d'emploi, on va avoir de la recherche de formation, on va avoir bien sûr de l'élaboration du projet professionnel, mais on va élargir, étant donné qu'on les voit quand même tous les matins et ce pendant 6 mois, on va élaborer quand même d'autres ateliers qui vont peut-être intéresser plus ou moins certains. Et donc le jeune, tous les vendredis matins, se présente en mission locale pour se positionner sur tous les ateliers qu'il aura la semaine suivante. Donc ça lui permet de s'organiser aussi en amont. Donc il va choisir, je vois derrière vous par exemple du théâtre, on avait T'es pas nul, on avait aussi du théâtre avec une prof de théâtre qui faisait de l'improvisation. Donc là c'était plus dans l'objectif d'aider un petit peu les jeunes à prendre la parole en public. d'utiliser ce masque, ce rôle le jour de l'entretien avec un employeur. Donc tout ça, ça se travaille. La présentation se travaille, la respiration. Et par le biais du théâtre, on a trouvé que c'était quand même une idée assez intéressante.
Et du coup, là, on voit que dans votre travail au quotidien, toi et ton équipe, vous êtes constamment en train de vous réinventer. Du coup, d'inventer des nouvelles actions, de permettre à ces jeunes demandeurs d'emploi de pouvoir rentrer ou accéder à un emploi durable. Combien vous êtes dans le cadre du CEJE, par exemple? Et comment ça se passe, le travail des conseillères à ce niveau-là?
Bon, on n'a pas vraiment de retour de la part des jeunes, je vous le dis sincèrement. Hein, ils préféraient quand même rester à la maison. Mais on continue, c'est-à-dire qu'on va poser des questions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une convention? Est-ce que vous savez comment est présentée une fiche de paye? Comment est présenté un contrat de travail? Donc effectivement, on va quand même s'ils ne sont pas encore en emploi, on va quand même proposer des ateliers du... après l'entretien d'embauche, c'est-à-dire que va-t-il se passer en entreprise. Les mercredis après-midi, on se pose pour effectivement élaborer des ateliers qui pourraient être et intéressants, ludiques, informatifs et surtout qui puissent intéresser un très grand nombre de jeunes, parce qu'effectivement les ateliers c'est par 10, par 12, et on va essayer d'intéresser tout le monde. C'est très difficile.
Moussa, tu es référent parcours au sein du PRIJ, donc je rappelle ce que c'est que le PRIJ, c'est le programme régional d'insertion des jeunes. Mais qui mieux que toi, Moussa, nous expliquer c'est quoi le PRIJ?
C'est le plan régional de l'insertion à la jeunesse. Donc c'est un dispositif qui a vu le jour un peu avant 2020. Donc le but premier, c'est vraiment d'aller chercher les jeunes, qu'on appelle nous les jeunes NEET, donc les jeunes invisibles, sur le terrain. C'est-à-dire des jeunes qui souvent sont sans emploi, ne sont pas scolarisés, sont sans formation. Donc le but, c'est d'aller les chercher là où ils se trouvent, donc sur les territoires. Donc principalement dans les quartiers prioritaires de la ville, mais pas seulement, dans toute la ville, sur tout le territoire. Et le but, c'est vraiment de les ramener soit vers la mission locale, voilà, dans les dispositifs qui sont inhérents justement à l'institution. Donc ça peut être le CEJE, le CEJ, ça peut être aussi le PP, l'élaboration de projets professionnels. Mais pas seulement, on peut aussi les orienter vers ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun. Voilà, donc le but, c'est vraiment de les accompagner dans un parcours d'insertion professionnelle.
Donc, en fait, ton bureau, c'est dehors, t'es à l'extérieur pour les accompagner, pour les ramener ici, c'est ça?
C'est ça, donc c'est de les repérer sur le terrain. Donc on y va, ça se matérialise par une arrivée dans un quartier, par exemple, avec mon collègue, parce qu'on est deux. Le but, c'est de prendre contact avec eux, voilà, de se présenter, de présenter aussi la mission locale pour ceux qui ne la connaissent pas. Parfois, c'est aussi de déconstruire les idées préconçues sur la mission locale, puisque parmi les jeunes qu'on rencontre, il y en a qui ont déjà fréquenté la mission locale, d'autres qui en ont entendu parler pas forcément bien, avec beaucoup de préjugés. Donc le but, c'est vraiment de leur expliquer nous ce qu'on fait, et ensuite effectivement c'est de les ramener vers la mission locale. Mais on essaye quand même au préalable de se présenter, et surtout d'avoir avec eux, d'entretenir une relation de confiance, parce que c'est très important. Ces jeunes-là en général sont éloignés de l'emploi depuis un bon bout de temps, parfois ont arrêté l'école très tôt. Donc ils n'ont plus forcément confiance dans ce genre d'institution. Donc nous, on leur explique qu'on n'est pas là pour leur promettre du rêve, mais pour vraiment les accompagner.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des parents qui te disent « Moussa, est-ce que vous pouvez rencontrer mon fils, il ne travaille pas, etc. etc. » Est-ce que ça t'arrive ça régulièrement?
Ça nous arrive, oui. Alors régulièrement, je ne dirais pas, mais ça peut nous arriver parce qu'on est un peu partout. On n'est pas que on est dans les quartiers, mais on travaille en étroite collaboration avec les centres sociaux, par exemple. Donc on rencontre pas mal de parents là-bas. Soit des parents viennent nous solliciter pour leurs enfants, parce qu'ils nous ont vus et qu'ils ont vu les affiches, donc ils nous demandent ce qu'on fait, on leur explique. Soit où on est, ces parents-là sont orientés par des gens que nous connaissons ou avec lesquels nous travaillons déjà, pour justement qu'on puisse suivre leurs enfants.
Bonjour Linda.
Bonjour.
Alors pareil, hein, donc, on se connaît depuis quand même pas mal d'années toutes et tous autour de la table, donc on se tutoie, hein, c'est pour ça qu'on se tutoie. Et est-ce que tu peux te présenter et puis parler de la DEV dans les grandes lignes? Qu'est-ce que vous faites à la DEV à destination des bénéficiaires du RSA?
Alors donc moi c'est Linda Desilles, je suis la directrice effectivement de la DEV, donc une association créée depuis 1987 qui s'occupe du développement économique, de l'emploi, de l'entrepreneuriat de Villemomble. Et donc, ce qu'on fait pour les allocataires du RSA, on les accompagne dans un premier temps dans une démarche d'insertion socio-professionnelle. Il est vrai que les allocataires du RSA, je parlais en général, rencontrent des freins sociaux qui freinent largement leur possibilité de retour à l'emploi. Donc effectivement, nous, on s'attache à lever dans un premier temps ces freins sociaux. On rencontre tout type de freins, que ce soit des problématiques linguistiques, des problématiques administratives, des problématiques financières, des problématiques de tout ordre. Et nous, on travaille plus particulièrement l'insertion, donc la recherche d'emploi et de formation, quand on a pu identifier quels étaient les manques au niveau de leur profil pour qu'ils puissent accéder au marché du travail plus sereinement.
Alors, du coup, une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est que là, depuis quelques temps, la question du demandeur d'emploi, elle est assez médiatisée. Comment vous, en tant que professionnel, face à cette pression aussi médiatique, et comment ça rejaillit sur vos publics? Et comment vous, vous faites face à ça quand vous les avez en face de vous à ce niveau-là?
Alors, en tout cas, nous, ce qu'on essaye, notre devise, entre guillemets, c'est d'essayer de trouver le chemin le plus direct vers l'emploi. De toute façon, on n'attend pas que, malheureusement, l'État nous dise qu'il faut que les allocataires fassent 15 heures. C'est déjà notre objectif premier, de toute façon, c'est qu'effectivement, ils sortent du dispositif et qu'ils, effectivement, trouvent un emploi. Je pense que la plupart d'entre eux, c'est ce qu'ils recherchent aussi. On nous dit qu'on est sur le plein emploi. Or, on constate quand même qu'il y a énormément de demandeurs qui sont toujours sans emploi et énormément d'employeurs qui n'arrivent pas à recruter également. Donc on est dans un paradoxe où voilà, l'offre et la demande n'arrivent pas à coïncider. C'est pas avec 500 euros par mois dans le cadre du RSA, c'est plutôt de la survie hein, que de la vie. Donc on s'attache à faire que les personnes puissent avoir toutes les opportunités possibles de pouvoir trouver un emploi et sortir de cette situation.
Et vous, Rama, la mission locale, est-ce que ça a des incidences tout ça?
Alors, on n'a pas vraiment été impacté par tous ces changements, si ce n'est la transformation de la garantie jeune en contrat d'engagement jeune. Donc effectivement, il a fallu à ce moment-là s'adapter. On a essayé justement de jouer avec ces 15 heures. Et je pense que là-dessus, si je peux reprendre les mots d'une de mes conseillères, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu autant de retours à l'emploi qu'avec le contrat d'engagement jeune, où effectivement, ça booste énormément. Les 15 heures pour des jeunes qui sont très motivés. Et c'est ce qu'on leur dit en arrivant, c'est que si vous faites 15 heures, on n'est pas censé vous voir plus de 6 mois. On les maintient dans une dynamique qui fait qu'on a tout de même pas mal de retours à l'emploi.
Du coup, c'est vrai que nous, on partage des réussites. Quand on travaille en partenariat, il y a des choses qui avancent. Donc moi, c'était cette question-là que je voulais voir avec vous. Moussa, par exemple, comment, dans ta particularité de fonction, qui est quand même, qui se rapproche beaucoup, je trouve, de l'éducateur de rue, tu es beaucoup dehors, comment toi, tu travailles avec les différents partenaires après pour trouver des solutions pour les personnes que tu accompagnes?
En fait, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement parce que quand on est arrivé, mon collègue et moi, on a fait ce qu'on appelle une sorte de maillage partenarial social. Voilà, une veille sociale. Donc, on s'est enquéri un petit peu des différents partenaires avec lesquels on pouvait travailler sur la ville. Donc, ça nous arrive d'avoir des jeunes qui nous sont orientés par des animateurs. Ça peut être des éducateurs pour les villes où il y a des éducateurs de rue. Et on essaye justement de travailler en bonne intelligence avec une certaine transversalité pour voir comment faire pour que le jeune puisse ne manquer de rien.
Dans le cadre du PRIJ, donc si je comprends bien, ça t'arrive d'être à l'extérieur, d'avoir un jeune qui n'est pas à la mission locale, qui n'est pas au CEJ. Donc toi, tu vas le ramener à la mission locale, il va s'inscrire, il va être au CEJ.
Initialement, quand on est arrivé, c'était un peu ça. Aujourd'hui, on va dire que les missions ont un peu évolué. Donc on n'est là jamais vraiment. Donc quand les jeunes sont orientés vers le CEJ, ils ont leur conseillère CEJ. Et il se peut que parfois, pour X ou X raisons, par exemple, le jeune ne remplisse pas le règlement. Donc du coup, il est sorti du dispositif. Entre guillemets, on les récupère sur nos portefeuilles. Et ensuite, on continue à travailler avec eux sur un projet.
Linda, quand on parle d'accompagnement, au niveau de l'ADEV, il y a un truc qui m'avait marqué la première fois où j'y avais participé, c'est une sorte de marathon de séminaire sur une semaine à destination des allocataires du RSA. Est-ce que tu peux nous en parler de, en quoi ça consiste et tous les apports que ça peut avoir pour les personnes que vous accompagnez?
Alors effectivement, il s'agit du marathon de l'emploi. Donc c'est une semaine d'accompagnement intensif auprès du public. On les accompagne toute la semaine, toute la journée. Et on les prépare à rencontrer des employeurs. Donc l'idée, c'est de travailler dans un premier temps la mobilité. Dans un deuxième temps, on les emmène aussi à Rony pour leur permettre d'élargir un peu le champ des possibles et d'avoir accès à la réalité virtuelle pour de la découverte de métiers. On les emmène aussi au Noisilien de façon à ce qu'ils puissent avoir la remise d'une tenue professionnelle pour rencontrer l'employeur ainsi que certains conseils en image. L'idée, c'est que la rencontre employeur et candidat se fasse dans un autre cadre.
Et donc, en fait, avec tout ce que tu me dis sur ce marathon, sur ce que tu as dit ailleurs, on comprend bien que les allocataires, ils n'ont pas attendu d'avoir l'obligation de faire 15 heures de démarche pour se sortir de la situation dans laquelle ils sont. De facto, en fait, ils font bien plus parce qu'ils ne vont pas rester allocataires du RSA. Donc, on se rend compte aussi des fois des bizarreries, peut-être aussi des injonctions entre la réalité du terrain que vous, les acteurs qui sont là au quotidien de ces personnes-là, nous montrez et du coup des représentations que certaines personnes peuvent avoir. Moussa, cet été, il y a eu une crainte. On avait eu peur en fait que le PRIJ disparaisse. Tu as eu pendant ce moment-là, cette période-là, beaucoup de retours de partenaires qui vont parler de votre travail plus qu'en bien. Comment on reçoit ça de la part de ces partenaires, de ces acteurs?
Bah c'est toujours gratifiant parce que ça démontre l'utilité de notre fonction, de notre travail. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a vraiment, vraiment fait plaisir avec mon collègue. Mais effectivement, le fait que le dispositif ait été reconduit, je pense que c'est une bonne chose aussi pour une bonne partie des jeunes du territoire, hein, parce qu'ils nous remercient aussi du travail qu'on fait, mais sans eux, on ne serait rien. Donc en réalité, tout le monde y trouve son intérêt et je trouve que c'est un dispositif qui devrait être poursuivi sur le long terme.
Rama, est-ce qu'on se rend compte que les difficultés, elles ont évolué? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont dans des grandes situations de précarité, de difficultés? Et dans ces cas-là, comment vous faites, vous, pour permettre à ces jeunes-là de sortir la tête de l'eau, par exemple?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on accueille, en tout cas en Sège, beaucoup plus de mineurs qu'il y a quelques années. Donc effectivement, c'est assez compliqué dans le sens où l'objectif est l'emploi durable et que ces jeunes ont quasiment 6 mois, 8 mois, 10 mois pour trouver cet emploi. Donc il y a un objectif qui est assez difficile à tenir. Et donc le service civique peut être une bonne alternative. Maintenant, concernant la précarité des jeunes, en fait, on en a toujours eu. Et je pense que ça a toujours été notre spécificité, contrairement aux jeunes qui sont accompagnés à France Travail aujourd'hui. Donc nous, on va avoir plutôt des jeunes qui sont peut-être en errance, en risque de rupture d'hébergement, sachant qu'on sait très bien, une semaine d'errance ouvre à la deuxième semaine et ensuite on les a perdus. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut avoir un impact très très fort. Dès qu'on a un emploi, 3 fiches de paye, on peut prétendre à des foyers jeunes travailleurs, à un logement, etc. Donc la base et le socle de tout pour s'en sortir, c'est le travail.
Est-ce que toi, Linda, quand on parle un peu là, de complexité d'accompagnement, est-ce que tu trouves qu'il y a une plus grande précarité, une plus grande difficulté des allocataires du RSA et comment dans ces cas-là, vous faites-vous à la DEF pour faire en sorte autant que se peut que ces gens ils sortent la tête de l'eau?
Alors nous, ce qu'on remarque au niveau des allocataires du RSA, c'est quand même un changement au niveau du public. Auparavant, on avait un public qui parfois pouvait s'installer dès l'âge de 25 ans au RSA jusqu'à la retraite et qui n'avait pas de diplôme, n'avait pas d'études. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des diplômes, des bac plus 2 jusqu'à bac plus 5, voire 8 parfois, et qui malgré tout sont au RSA et n'ont pas d'emploi. La plupart des personnes qui sont allocataires du RSA sont très, très isolées. C'est pas que d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un constat qu'on fait. Et très souvent, ils ont du mal à venir vers nous, mais une fois qu'ils viennent, ils sont contents de trouver ne serait-ce qu'une écoute et ne serait-ce que le fait de ne pas se retrouver seul. En général, c'est des gens qui sont très, très isolés, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas forcément d'amis. Le Covid étant passé par là, ils sont beaucoup restés chez eux, ils y restent encore beaucoup. Et donc, leur proposer aussi du collectif dans l'accompagnement, ça permet aussi de les resocialiser, si je peux dire ça comme ça. Et ils sont très contents d'être accompagnés et de voir qu'ils ne sont pas les seuls dans ces situations-là. Ça leur permet de pouvoir échanger avec d'autres et de recréer du lien. Et je pense que voilà, ça, le lien, ils en ont beaucoup besoin et c'est important dans l'accompagnement.
Quand on parle de tout ce qui s'est passé cette dernière année avec les Jeux Olympiques, est-ce que les JO, ça bénéficie en termes d'emploi aux personnes que vous accompagnez ?
Bah en fait, effectivement, c'est sur différents secteurs, mais celui qui revient, c'est la sécurité. Donc, bon, on a pas mal de jeunes qui ne peuvent pas. Il y a des prérequis obligatoires, comme le casier judiciaire. Mais en dehors de ce petit détail, effectivement, on a quand même pas mal de jeunes qui se sont orientés vers la sécurité. C'est une formation et du travail incessamment sous peu. Donc, c'est une bonne chose. Et faut dire aussi qu'ils ont mis les moyens. Il y a eu quand même pas mal de primes concernant la formation, la sécurité, donc ça a quand même motivé nos jeunes.
Là, toi, est-ce que tu as des personnes que tu accompagnes qui ont pu bénéficier de ce que je vais appeler l'apport des JO sur le territoire en termes d'emploi ?
Alors, ce qui a permis de bénéficier à notre public de cet apport, c'est notamment les entreprises d'insertion par l'activité économique qui ont décroché des contrats et qui ont permis à des personnes qui n'ont pas forcément de qualification d'aboutir sur les métiers de blanchisserie, de runner ou de choses comme ça. Après, dans l'espoir que ça reste pas précaire et que ça puisse se prolonger dans le temps.
Moussa, est-ce que tu as eu des retours directs de personnes que tu accompagnes à ce niveau-là ?
Des retours directs, non. Maintenant, effectivement, comme disait Mme Camara, il y a énormément de prérequis, notamment pour la sécurité. Donc, parfois, ça peut intéresser des jeunes, mais malheureusement, ils ne rentrent pas dans les cases où la sécurité ne les intéresse pas nécessairement. Après, effectivement, il n'y a pas que la sécurité. Hein. Il y a aussi il y a de l'hôtellerie, il y a tout ce qui est cuisine. Mais pour le moment, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai pas eu vraiment de jeunes qui ont trouvé un emploi ou une promesse d'embauche. Mais ça peut venir, c'est pas terminé.
C'est pas terminé, effectivement. Les Jeux Olympiques, c'est dans quelques mois. On arrive à la fin de l'émission. Et avant de conclure, si on avait, nous, autour de la table, sur ces questions d'emploi, d'accompagnement des plus éloignés ou des plus précaires ou des jeunes ou des moins jeunes, et une proposition qu'on souhaite mettre en place. Tu vois, voilà, on a un blanc-seing, on peut mettre en place. Qu'est-ce que serait, chacun d'entre vous dit, voilà, si je peux mettre en place un truc pour l'emploi, ce serait ceci.
Pour ma part, ce serait développer en grand nombre les structures de l'insertion par l'activité économique, ouvrir de nombreuses crèches pour avoir des modes de garde qui permettent aux mamans de pouvoir s'insérer plus facilement sans attendre les 3 ans de leur enfant, ce serait déjà pas mal.
Pour ma part, je continuerai dans cette lancée. C'est vraiment peut-être aider financièrement, comme on le fait pour l'alternance, l'embauche des jeunes sans expérience. À un moment donné, il faut bien se lancer. Il faut bien qu'il y en ait un qui leur fasse confiance. Et pas simplement un remplacement, pas simplement pour faire le ménage, pas simplement pour occuper le poste de stagiaire, mais bel et bien en tant que collègue, au même titre que tous les salariés de l'entreprise, ce serait pas mal.
Moussa ?
Moi, j'aurais deux requêtes. Ça serait la première, peut-être être un peu plus souple sur les prérequis pour certaines professions. Et la deuxième, ça serait de plutôt privilégier l'expérience que les diplômes. Voilà.
Tu veux intervenir ?
Bah, déjà, je voulais remercier la mission locale. Je voulais remercier aussi Moussa, parce que c'est grâce à lui que je suis à la mission locale, pour le coup. Et j'apprécie vraiment. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et pour revenir sur ce que tu disais, Moussa, l'expérience, c'est bien, mais je pense aussi qu'il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est ce que les gens... Je ne sais pas si c'est pareil ou pas, mais c'est ce que les gens ont fait aux alentours de leur cours ou des choses, en fait, de manière générale. Parce que l'expérience, pour le coup, je suis tout à fait d'accord, c'est super important. Parce que, par exemple, quand on est en seconde année d'école, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de choses concrètes. Et souvent, par exemple, dans l'informatique, ils demandent énormément de diplômes ou ce genre de choses. Et ça peut être compliqué, en fait, de trouver un stage ou une alternance.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, prendre la parole ?
Du coup, je voulais juste dire que, en tant que personne qui fait partie du CEJ, on voit quand même qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place un peu partout et sous différentes formes. Et du coup, en tant que jeune, on le voit pas forcément et on devrait participer à cette émission. Ça a mis ça en lumière. Et du coup, je voulais aussi vous remercier par rapport à ça, parce que mine de rien, c'est du travail. Et ça fait plaisir à voir.
Eh bien, on va finir sur cette belle note. Merci aux jeunes. Merci beaucoup. Merci Moussa, merci Linda, merci Rama. C'est toujours un plaisir, vraiment, ça vous le savez, mais je le redis, hein, mais d'être avec vous pour parler de ces questions-là. Vous savez, puisque moi, que c'est des questions qui me touchent particulièrement, hein, parce que c'est aussi un peu notre cœur de métier, aussi à Making Wave. Merci à la DEV, merci à la mission locale de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Making Wave. Thank you.